allons partager ce matin sur un caractère précis de Dieu, un caractère qui est en action depuis toujours et pour toujours. Nous allons prendre, si on peut afficher s'il vous plaît, Actes 17, 16 à 27. C'est Paul qui est à Athènes et nous allons nous arrêter particulièrement sur les versets 24 à 28. On prend un plus grand ensemble parce que le contexte est important. Je vais le lire. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir ?» Quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? L'aéropage, c'était une colline, mais aussi un lieu où se prenaient des décisions importantes. En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Alors, par rapport au contexte, voilà, Paul est à Athènes. Dans la Grèce antique, berceau de la philosophie. À cette époque, c'est une ville pleine d'idoles. Et Paul rencontre des philosophes qui sont pleins de questions. De quoi tu parles ? Quelle est cette divinité étrangère ? Quel est ce nouvel enseignement dont tu nous parles ? Paul s'adapte toujours aux personnes à qui il partage l'évangile. Il se fait juif avec les juifs. Et dans ce cas, il se fait certainement philosophe avec les philosophes. Dans le cadre missionnaire, on pourrait appeler ça l'inculturation. C'est le fait d'abandonner volontairement sa culture pour s'adapter pleinement à la culture qui est en face de nous pour lui apporter l'évangile. Donc Paul met un doigt sur un caractère précis de Dieu. Dieu, le Créateur, il dit qu'il est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel, de la terre. Il a créé les temps et les limites. Il n'habite pas dans des lieux spécifiquement créé par la main de l'homme. Il n'a pas besoin des mains de l'homme comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il a désiré l'homme, sa création. Et il désire que l'homme le cherche et s'efforce de le trouver. Il n'est pas loin de nous car il ne se cache pas. Et c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. En lui et non pas seulement par lui. En présentant Dieu ainsi, Paul, il met la lumière sur le panthéisme de l'époque parce qu'il maintient la personnalité de l'homme et la personnalité de Dieu. Le panthéisme, c'est une doctrine philosophique déjà très présente à l'époque qui considère que Dieu n'est pas un être distinct du monde, mais qu'il fait partie de l'intégralité du monde. On pourrait alors vouer un culte à la nature, divinisée par exemple, ou à l'univers. Mais Dieu est bien distinct du monde, car il est la source, car il est le créateur du monde et de toutes choses. C'est l'idée de dépassement, de franchissement, qui va au-delà de. Dieu est au-delà de. Il est plus, il surpasse, il dépasse, il traverse. Je répète le verset 28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout est toujours en mouvement. Tout évolue. Dieu crée le mouvement, les courants d'eau, la migration des oiseaux, la pluie qui tombe, les saisons qui changent. Le mouvement, c'est en fin de compte la vie, la croissance des champs, les nuages qui sont balayés par le vent, les muscles de mon visage, quand je partage, quand je souris, quand je ris, les plis de vos yeux qui plissent sont en mouvement. Et je ne peux pas arrêter le mouvement. Ce serait comme si j'aimerais arrêter le temps. Donc il fait partie de la création. C'est le souffle de Dieu lors de la création dans Genèse déjà. Mon souffle est un mouvement de vie. Nous avons un Dieu vivant, réellement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et nous ne pourrons jamais être trop vivants. Mais Acte 17 nous montre aussi que les philosophes de l'époque étaient en mouvement. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Quand on est perdu, souvent, nous ne savons pas ce que nous cherchons. Nous laissons notre pensée recevoir tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est nouveau, tout ce qui passe par là, ça entre. Parce que nous ne sommes pas ancrés dans quelque chose de solide, nous sommes volatiles. Et cela peut arriver encore aujourd'hui. Pas besoin d'être un philosophe pour se perdre, je ne dis pas que les philosophes se perdent. Je connais des philosophes chrétiens ancrés en Christ, très intéressants, qui allient ces deux facettes. Mais à l'époque, ce qui est souligné dans Acte 17, c'est bien que les philosophes ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Il ne faut pas chercher pour chercher, surtout quand tu ne sais pas ce que tu cherches. Parce que tu cherches à gauche, à droite, et oh, perdu, hein. Je sais bien ce que je dis. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Est-ce que nous cherchons le Seigneur, ou la nouveauté, ou quelque chose qui pourrait nous plaire, humainement parlant? Je remets ça dans le contexte de l'Église. Si l'Église ne sait pas où elle va, elle est perdue. Mais nous savons où nous allons, vers une Église qui évolue avec son époque, et surtout, qui cherche Dieu, et qui cherche la volonté de Dieu, rien d'autre. Qui ne se perd pas à droite et à gauche parce qu'elle sait ce qu'elle cherche et ce qu'elle souhaite. Est-ce que personnellement nous savons ce que nous cherchons? Cherchons-nous quelque chose qui pourrait nous plaire, nous satisfaire d'un besoin particulier, dans nos vies personnelles, ou cherchons-nous la volonté de Dieu, même si elle ne nous plaît pas au premier abord? Alors, notre Créateur nous a demandé de nous bouger. Et c'est ce que nous avons entrepris en tant qu'Église, bouger. L'Église, si est en mouvement, est donc en vie. C'est une bonne nouvelle. L'Église est vivante. Le mouvement n'est pas toujours agréable, parce qu'on ne sait pas toujours, on sait dans quelle direction on va, mais on ne sait pas par quoi on va passer. On ne sait pas quel chemin nous allons prendre, quelle route exacte on va emprunter pour arriver à cette destination. Et ça, c'est aussi le verset 27. S'efforcer de trouver en tâtonnant, en allant en fait un pas après l'autre, pas trop rapidement, en attendant là ce que Dieu nous donne à chaque instant, à chaque jour. Et comme dans les saisons que nous percevons dans la nature, le printemps par exemple, mercredi, premier jour du printemps, c'est le renouveau. Mais avant ce printemps, c'était l'hiver. Et ce printemps, il n'a pas éclaté comme ça. Pouf! Ça fait déjà 2 mois qu'il se prépare. Les mésanges, elles ont chanté tout l'hiver, souvenez-vous? Les premières petites fleurs bleues dans les lisières de forêt, là, ça fait déjà 3 semaines qu'elles sont là. Les bourgeons, il y en a déjà depuis 1 mois. Ce n'est pas arrivé comme ça. C'était un processus. Alors c'est un encouragement ce matin, peut-être que cette nouvelle saison d'église tant attendue n'est pas encore arrivée pleinement à son plein établissement, parce que c'est un processus, mais comme le printemps, je crois qu'il y a déjà quelques bourgeons et quelques belles petites fleurs aux lisières de l'église. L'église est en mouvement et donc est en vie. Elle ne peut pas aller plus vite, plus rapidement que le temps prévu par Dieu. Nous savons où nous allons, quelle direction nous prenons, alors ne regardons ni à droite ni à gauche, c'est une marche par la foi. Juste rester focus, sans vouloir aller plus vite que la musique. J'ai déjà voulu aller plus vite que la musique, et ça ne s'est pas bien passé. Et certainement, vous savez de quoi je parle. Alors, appliquons ça aussi à l'Église que nous formons, dans tous les projets, personnels, ecclésiales. Enfin, l'Église a été créée par notre Dieu, Créateur, et la forme qu'elle prend ne devrait pas être un sujet de dispute. Dieu ne réside pas dans un temple fait de mains d'hommes. Sa forme peut tout à fait être différente de ce qu'elle a été, comme elle est en mouvement et que tout est toujours en mouvement et que tout évolue. Ce n'est pas un problème. Mais prions pour qu'elle soit ce que Dieu veut qu'elle soit et qu'elle ressemble à ce que Dieu désire. Personnellement, je ne sais pas du tout quelle forme elle va prendre. Mais elle va changer, c'est sûr. Et elle va continuer d'évoluer avec son temps, son époque, son lieu géographique. L'Église a toujours été influencée par la culture, parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes, humains. Et c'est bon. Mais il faut qu'elle soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Elle ne doit pas ressembler au monde, mais elle reste matériellement, physiquement, dans le monde, parce qu'on est, là. Et les philosophes de l'époque ne s'inquiétaient pas de ce qui était censé. Ils écoutaient juste les dernières nouveautés. Ils écoutaient le monde. C'est un peu une pensée en arborescence. Ça arrive. Et je crois en fait que parce que Dieu souhaite qu'on le fasse vraiment ensemble et qu'on puisse prier et réfléchir ensemble et que c'est à chacun de prendre aussi sa part de responsabilité par rapport à l'Église. Prions. Merci Seigneur parce que c'est toi qui crée l'Église. Merci Seigneur parce que c'est de toi que sont créées toutes choses nouvelles. Merci Seigneur, nous voulons regarder en avant et nous souhaitons plus que tout, Père éternel, marcher dans ta volonté. même si à premier abord, elle ne nous plaît peut-être pas. Seigneur, nous voulons marcher sur les pas que tu as prévus avant même que nous soyons nés. Père éternel, fais de cette église ton église, pleinement. Une église qui te cherche toi et qui ne se préoccupe pas de ce qui pourrait se passer aux côtés, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi, nous voulons te craindre plus que tout. Nous voulons, Père, que ta crainte jaillisse de cette église et puisse toucher, Seigneur, au-delà des lisières. Merci, Père, pour ce que tu fais. Nous te faisons confiance. Sois béni. Amen.